Jésus traverse de nouveau en barque de l'autre côté. Une foule nombreuse se rassemble auprès de lui. Il est au bord de la mer. Un des chefs de la synagogue vint vers lui, son nom Jairus. Le voyant, il tombe à ses pieds, le supplie fort et dit « Ma fillette est à sa fin. Viens, impose les mains sur elle. Elle sera sauvée, elle vivra. » Il s'en alla avec lui. Une foule nombreuse le suit et se presse contre lui. Là, une femme fluente de sang depuis 12 ans. Elle a beaucoup souffert avec de nombreux médecins. Elle a dépensé tout son avoir sans aucune amélioration. Elle va même plutôt pis. Elle avait entendu parler de Jésus. Elle vient dans la foule derrière lui et touche son vêtement. Elle disait « Oui, si je pouvais seulement toucher au moins ses vêtements, je serais sauvée. » Vite, la source de son sang sèche. Elle pénètre en sa chair qu'elle est guérie du mal qui la harcelait. Jésus pénètre vite en lui-même qu'un pouvoir est sorti de lui. Il se tourne vers la foule et dit « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui disent « Voici la foule te presse et tu dis « Qui m'a touché ?» Il regarde à la ronde pour voir celle qui a fait cela. La femme frémit, tremble, sachant ce qui lui est arrivé. Elle vient, tombe devant lui et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit « Fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. Sois assaini du mal qui te harcelait. » Comme il parlait encore, voici, ils viennent de chez le chef de la synagogue, des serviteurs, et dire « Ta fille est morte. Pourquoi encore fatiguer le rabbi ?» Mais Jésus saisit la parole qu'ils ont dite. Il dit au chef de la synagogue « Ne frémis pas, crois seulement. » Il ne laisse personne le suivre, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils viennent dans la maison du chef de la synagogue. Il perçoit le tumulte. Il pleure, crie. Il entre et leur dit « Pourquoi ce tumulte? Pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Il ricane contre lui, mais il les jette tous dehors. Il prend le père de l'enfant, la mère, ceux qui sont avec lui, et il entre là où est l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit « Talita kumi », ce qui se traduit « Fille, je te le dis, réveille-toi ». Vite, la fillette se relève et marche. Oui, elle a 12 ans. Ils sont hors d'eux-mêmes, totalement hors d'eux-mêmes. Il leur ordonne instamment que personne ne chasse cela. Il dit de lui donner à manger et sort de là. Je me suis permis une version un peu originale de Marc 5. Alors je sais que ce passage, je l'ai déjà abordé avec vous il y a un certain temps. Mais vous savez la différence entre l'artificiel et le vivant ? Je ne parle pas d'intelligence artificielle encore. Allez, la différence entre une plante artificielle et une plante vivante. Ça se ressemble, mais il y en a une, il n'y a pas besoin de l'arroser. Il y en a une qui n'évolue pas. Il y en a une qui est appelée à grandir, à prendre de l'ampleur, de l'espace, à fleurir, à porter du fruit, à donner une descendance. C'est un principe de vie. Et si nous sommes vivants, nous avons beau lire les mêmes paroles. Ces paroles doivent nous arroser. Parce que nous sommes vivants, nous avons besoin d'être arrosés de la parole de Dieu. Et cette parole va nous faire grandir, va nous épanouir, va nous faire porter du fruit, nous transformer. Je ne suis plus le même que quand j'avais 5 ans, je vous rassure. Même si des fois dans la tête, on peut se demander. Mais la parole de Dieu produit un effet. Et j'ai beau lire le même passage. Chaque fois, il y a quelque chose de nouveau qui était là déjà avant, mais que je n'avais pas perçu, parce que j'ai changé, et parce que Dieu me change, et parce que Dieu me conduit aussi sur des choses nouvelles. Et ce n'est pas une histoire d'âge, c'est une histoire de parole de Dieu qui est agissante dans nos vies. Et ça, c'est merveilleux. Et donc, on peut prêcher 10 dimanches de suite sur ce texte de Marc 5. Chaque fois, il y aura quelque chose de neuf, de nouveau, et c'est normal. Et ça commence, ce texte, par un homme religieux, un pharisien qui est là et qui va supplier Jésus, qui va aller vers Jésus et le supplier. Ma fillette est à son terme, elle est en train de mourir. Et je vous rappelle qu'entre les pharisiens et Jésus, ce n'était pas un tendre amour, hein, a priori. Les pharisiens, quand même, cherchaient à le faire mourir, quoi. Il cherchait une pierre d'achoppement, il cherchait l'erreur que Jésus allait faire. Mais lui, il a un tel besoin qu'il va s'approcher de Jésus. Un tel besoin. Mais ce qui m'intéresse, c'est aussi la réaction de Jésus. Il ne va pas lui dire, écoute, je connais les pharisiens, c'est bon quoi. Quel piège t'as derrière ce truc-là. Puis si je la ressuscite... Un dimanche matin, tu vas encore m'accuser que c'était un dimanche matin, et si je le fais sabbat dans le texte original, oui, je sais. C'était pas le dimanche, c'était le samedi. Jésus ne va pas juger les gens avec des étiquettes. Il va l'accueillir. Il va répondre à son besoin. Jésus est en train d'enseigner une foule, et cet homme vient. Et juste pour cet homme, Jésus se lève et dit, on va y aller. Et du coup, toute la foule va suivre Jésus, quoi. Mais Jésus n'était pas préoccupé. Est-ce que la foule va me suivre si je vais chez cet homme? Ou est-ce qu'elle va dire, ah ben voilà, qui se met bien avec les pharisiens maintenant? Jésus ne regardait pas sa réputation. Il ne regardait même pas au fait que là, il y avait des centaines de personnes, peut-être, une grande multitude. Et il ne regardait pas à sa réputation, il ne regardait pas au nombre de personnes qui étaient là. Il regardait à cet homme, Jaïrus, qui avait un besoin. Et que ce besoin, il l'a apporté à Jésus. Il a supplié Jésus. Et ce n'était même pas forcément un besoin pour lui en premier. C'était un besoin pour la guérison de sa fille. Alors, bien sûr, on est tous concernés par la guérison de nos enfants. Heureusement. Parce que nous sommes parents. Mais Dieu qui est parent, lui aussi, est intéressé par la guérison de chacune de ses créatures, de chacun de ses enfants. Et Jésus est intéressé par la guérison de cette fille, est intéressé par ce que Jaïrus est en train de traverser pour lui apporter une réponse. Et il ne va pas regarder à la situation sociale, politique, religieuse de Jaïrus. Il ne va pas lui dire, oh, tu sais, moi avec les pharisiens, tu sais comment ça se passe, alors on va mettre d'abord des conditions hein, pour que je puisse t'accompagner. Un petit contrat avec plein de petites étoiles qu'on n'arrive pas à lire tellement c'est crypti. Et c'est toujours ces passages-là qu'on nous ressort quand on en a besoin, pour dire que finalement, on n'y a pas droit. Non, Jésus ne dit pas à Jaïrus, tu sais, il y a des clauses dans lesquelles tu n'as pas droit. Non, je vais me déplacer pour toi. Je vais laisser ce que je suis en train d'enseigner à ces centaines de personnes. Ils feront ce qu'ils voudront, mais moi, je vais t'accompagner chez toi. Et là, il y a 100 personnes ou plus qui suivent Jésus pour aller chez Jaïrus, vous imaginez. Jésus ne rejette jamais une personne qui fait appel à lui. Et Jésus est prêt à laisser les 99 qui sont là pour t'accompagner, toi qui as besoin, sur le chemin. Mais je te rassure, il fait ça pour les 99 autres aussi. Ça, c'est Dieu. Seul lui est capable de faire ça. Moi, je peux accompagner une personne. Jésus accompagne chacun individuellement, en même temps, avec le même amour. Donc, pour l'instant, ça se passe bien. Mais j'aimerais encore dire quelque chose sur Jairus. Nous voyons une personne qui souffre parce qu'un membre de sa famille souffre. Et il y a quelques années, au niveau pastoral, dans l'équipe pastorale, on a vraiment mis comme un leitmotiv ou je veux dire une façon de faire que lorsqu'on aborde une situation difficile avec quelqu'un, que lorsqu'il y a quelqu'un qui est en souffrance, il n'y a pas juste cette personne qui est en souffrance, il y a son entourage qui en souffre aussi. Et il ne suffit pas de s'occuper pastoralement juste de cette personne. C'est important de s'occuper de tout l'entourage de cette personne. Et des fois, l'entourage, ça fait beaucoup de monde. Mais gardez cela en tête. Lorsque vous voyez une personne qui souffre, dites-vous que derrière, c'est une famille, ce sont des relations dont il faut aussi prendre soin. Jairus souffrait parce que sa fille était mourante. Et qui ne souffrirait pas? Mais les deux avaient besoin du soutien de Jésus. Et puis, Dieu cherche encore des Jaïrus, des gens qui viennent vers Jésus parce que d'autres n'ont pas les moyens physiques, spirituels, moraux, n'ont pas la force pour pouvoir le faire, ne savent même pas qu'il faut le faire. Et c'est vraiment la notion d'intercesseur. Et Dieu cherche encore au milieu de vous des intercesseurs. Et l'intercession, ce n'est pas une histoire de force, ce n'est pas une histoire d'âge, ce n'est pas une histoire est-ce que je suis appelé à intercéder ou pas? Je te dis ce matin, Dieu t'appelle à l'intercession. Et sans l'intercession, vous pouvez plier en deux l'histoire biblique, parce que toute la Bible, c'est l'histoire d'intercesseur. Moïse, intercesseur pour le peuple. Les prophètes, intercesseurs pour le peuple. Jésus, intercesseur pour tous les peuples. Quelqu'un qui se place entre Dieu et les hommes et qui porte les autres devant Dieu pour que Dieu les bénisse. Que lui soit béni ou pas, ça ne le regarde pas quelque part. Ce qui l'intéresse, c'est que les autres soient bénis. Et si c'est cela ta motivation, si tu te contentes simplement de chercher ta bénédiction, c'est dommage. Parce que Jésus t'appelle à être un intercesseur, c'est-à-dire quelqu'un qui cherche la bénédiction de quelqu'un d'autre, pour quelqu'un d'autre, et qui sait que ce n'est pas lui qui va pouvoir bénir quelqu'un d'autre, c'est Dieu qui, à travers lui, va pouvoir bénir quelqu'un d'autre. Nous sommes tous appelés à porter quelqu'un devant Dieu. Je suis sûr que vous connaissez au moins une personne, ce matin, là, maintenant, pour laquelle vous avez envie de crier devant Dieu. Pour que Dieu la bénisse, pour que Dieu la guérisse, pour que Dieu la touche. Non? Alors je vous propose qu'on le fasse maintenant. Je vous propose de vous lever. Pas devant moi, mais devant le trône de grâce. Et dire Seigneur. Et vous pouvez citer le nom de la personne et demander dans la prière, très courtement, que Dieu la touche, que Dieu la bénisse, que Dieu la guérisse. Vous connaissez peut-être le besoin de la personne, ou peut-être vous ne la connaissez pas, mais portez cette personne maintenant devant Dieu. On y va. Seigneur, nous te prions que toute personne qui est sur nos cœurs ce matin, que toute personne qui a été citée ce matin, soit au bénéfice de ta grâce, que ce soit pour te rencontrer et être sauvé, que ce soit pour une guérison, que ce soit pour un soutien particulier. Seigneur, merci pour tous les Jaïrus qui se sont levés ce matin pour apporter leur fillette, pour apporter ces personnes. Et nous te demandons ta bénédiction, Père, sur ces personnes. Amen. Amen. Dieu appelle des gens à se lever ou à se mettre à genoux, qu'importe la forme, mais Dieu appelle à l'intercession parce que notre monde a besoin d'intercesseurs, plus que jamais. Ce n'est pas que notre intercession a de la force, mais c'est que celui qui écoute notre intercession est prêt à se lever pour chacun de nous. Dès que nous faisons appel à Dieu, Dieu se met en mouvement pour nous, parce qu'il est un Père. Mais allons un peu plus loin. Un peu plus loin. Voilà que Jésus se déplace et que la foule, se sentant délaissée, suit Jésus, presse Jésus de toutes parts, et d'un seul coup, une force sort de Jésus. Bizarre. Hein? Bizarre que Jésus dise « qui m'a touché ?» Alors que la réaction des disciples est tout à fait cohérente. Tout le monde te touche, n'importe qui te touche, tout le monde te presse, là. Tout le monde est agglutiné sur toi, là. Et tu dis « qui m'a touché ?» Mais il y a plein de personnes qui t'ont touché. Mais ce qui intéresse Jésus, ce n'est pas n'importe quel touché. C'est un touché qui a été, lui aussi, motivé par un besoin. Tout comme Jaïrus était motivé par un besoin, Jésus va regarder à tes besoins, à ce que tu es en train de vivre. Parce que ce qui intéresse Jésus, c'est pas que tu sois pharisien et que tu connaisses la Bible par cœur, ou au moins l'Ancien Testament à l'époque. Ce qui intéresse Jésus, ce n'est pas ta religion, ce n'est pas ton argent, ce n'est pas ton rang social. Ce qui intéresse Jésus, c'est toi, ce que tu es en train de vivre. Et vous savez, on peut demander à une personne sa confession de foi. Mais demandez-lui, qu'es-tu en train de vivre maintenant? Parce que c'est ça qui intéresse Jésus finalement. Qu'es-tu en train de vivre avec ou sans Dieu? Mais qu'es-tu en train de subir, de vivre? Et là, Jésus est intéressé par ce toucher-là de gens qui sont en train de vivre des choses et qui décident pour régler les choses de se tourner vers Jésus. Et cette femme, celle qui va toucher Jésus, va la toucher vraiment de façon intentionnelle, dans un but précis. Si je peux toucher ces vêtements, alors cette perte de sang qui date depuis des années, que les médecins n'arrivent pas à guérir, dans laquelle j'ai tout dépensé ce que j'avais pour essayer de guérir, cette perte de sang va cesser. Je vais être guéri. Et cette femme va en secret toucher Jésus, comme s'il y avait un secret pour Dieu. Alors, on aurait pu dire, mais c'est un acte purement religieux. Je touche un vêtement, et d'ailleurs, certains en ont fait, quoi. Un bout de vêtement, qui veut, venez toucher, si vous allez être guéri. Il y a l'onction dessus. Allez-y, payez la dîme après. Non, on ne fait pas du commerce avec ça. Et on aurait pu dire que c'était un acte qui, voilà, complètement religieux. Mais Jésus va pas regarder si t'es religieux ou pas. À la limite, l'acte Jésus, ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'était ce qui a motivé cet acte, ce qu'il y avait dans le cœur de cette femme. Et cette femme a dit, je vais passer confiance dans cet homme-là. Quelque part, c'est ma dernière chance. Elle sera guérie. Et là, Jésus s'arrête. Qui m'a touché? Qui a eu ce contact spécial avec moi? Parce que c'est ça qui m'intéresse. Comme si Jésus savait par qui. Ça me renvoie au jardin d'Éden quand Adam et Ève se cachent. Coucou Adam, t'es où? Comme si Dieu ne savait pas où il était. Tout d'un coup, l'omniscience de Dieu aurait fait un petit saut là. Dieu ne sait pas où est Adam. Dieu ne sait pas ce qui s'est passé. Si Dieu connaît toutes choses, il sait exactement dans quel état est Adam, vêtu de végétaux. Dans quel état il est, ce qu'il a fait et où il s'est planqué. Mais Dieu appelle. Et rien que dans l'appel de Dieu, j'y vois une grâce. Dieu ne se désintéresse pas d'Adam parce que il aurait péché. Non, Dieu continue d'appeler. Et dans l'appel, il y a une invitation à avoir confiance en Dieu et à s'approcher de lui. Et Adam sort de son petit trou. Je suis là. Et Dieu le restaure. Dieu le revêt. Dieu le rétablit. Avec des habits autre chose que des végétaux. Dieu fait déjà un sacrifice d'un animal pour préfigurer le sacrifice de Jésus. Dieu continue d'appeler aujourd'hui. Dieu appelle cette femme quelque part en disant: qui m'a touché? Il sait très bien qui l'a touché. Il sait très bien ce qui s'est passé. Il sait très bien qu'une force est sortie de lui pour guérir quelqu'un. Mais Jésus s'arrête. Et là, Jairus peut dire, tu t'arrêtes, mais il y a une urgence, quoi, hein? Tu te souviens pourquoi on s'est mis en route là? Des fois, on aimerait que nos vies soient linéaires. Je fais appel à Dieu, on marche un coup, et c'est bon. Mais on ne comprend pas. On marche un coup, puis tout d'un coup, Dieu s'occupe plus de moi, il s'occupe d'une dame qu'on ne sait même pas qui c'est, qui l'aurait touchée, et puis elle a été guérie. Mais si elle a guéri, ben allons-y, allons de l'avant, c'est bon, c'est réglé, elle est guérie. Qu'est-ce que tu veux faire de plus? Occupe-toi de moi, elle est encore en train de mourir, ma fille. On comprend pas des fois pourquoi. On a l'impression que Dieu a commencé quelque chose avec nous, puis que tout d'un coup ça s'arrête comme ça. Et puis Dieu s'occupe de quelqu'un d'autre. Je suis plus chouchou de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Non, vous continuez de l'être chacun. Mais la vie n'est pas linéaire. Les joies côtoient les peines. C'est pas que de la joie et que de la peine. Et la grâce de Dieu est toujours là. Et oui, on aurait pu dire, ben pourquoi il s'arrête? Elle est guérie, c'est bon, l'affaire est réglée. Dieu est un père. Mais pas un Père Noël. Le Père Noël, il vient une fois par an apporter des cadeaux. Super comme relation. Demandez à tout enfant qui n'a jamais été en relation affective avec son père, mais que le père donnait de l'argent, ce qu'il pense de son père. C'est un bon banquier, quoi. Mais l'enfant est en recherche d'autre chose. Est-ce qu'il va rester dans le cœur de vos enfants? Ce n'est pas les cadeaux matériels que vous leur avez donnés, c'est qui vous étiez à leur côté. C'est votre identité qui va rester. Et Jésus n'est pas là juste pour donner un cadeau de guérison à cette femme. Il veut être un père pour elle, et pas un père Noël. Il veut être un vrai père. Et d'ailleurs, il va lui dire: ma fille, ta confiance t'a guérie. Il va l'appeler de ce terme hyper affectif, ma fille. Nous, en tant que chrétiens, on aurait dit ma sœur, que Dieu te bénisse. Non, Jésus va plus loin. Tu as été guéri, c'est bien, mais je veux plus que t'apporter des cadeaux une fois par an à Noël. Même si ce cadeau, c'est un besoin immense que tu as depuis des années et qui te fait du bien. Je désire être dans une relation intime, profonde avec toi, une relation dans laquelle je suis ton père et tu es ma fille. Et c'est ce que Dieu cherche avec chacun. C'est ce qu'il va chercher aussi avec Jaïrus, avec la fillette de Jaïrus. C'est ce qu'il a cherché avec cette femme. C'est pour ça que Jésus s'arrête. Parce que le tout, ce n'est pas que cette femme soit guérie. Ça, c'est accessoire. Un jour, elle mourra aussi. Mais l'important, c'est qu'elle devienne fille du Père. L'important, c'est qu'elle crée cette relation avec Jésus, parce que c'est finalement dans cette relation que je peux être en paix. Les cadeaux n'apportent pas la paix. La présence apporte la paix. Et là, Jésus va aller plus loin. Tu as confiance en moi. C'est ta confiance qui t'a sauvé. Ce n'est pas ton geste religieux qui t'a sauvé. Ce n'est pas le fait d'avoir touché mon vêtement. C'est la confiance que tu as mis dans ce geste. On peut faire plein de gestes religieux. Lire la Bible tous les jours. Mais la lire comme si on était des plantes artificielles. Elle arrête de nous arroser. Et puis nous, on grandit plus. On connaît le passage par cœur. On dit les premiers mots et on connaît déjà toute l'histoire et on n'apprend rien de nouveau. Moi, honnêtement, si un jour je lis la Bible comme ça, j'arrête tout de suite et je me dis, non, C'est pas la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est vivante, elle est dynamique, elle produit quelque chose dans mon cœur. Et même si c'est une petite chose, elle me fait avancer, elle me fait bouger, elle crée quelque chose. Et même si ça prend du temps, elle produit du fruit. C'est la parole de Dieu, c'est pas n'importe quelle parole. Et c'est pour cela que des fois j'aime décaper avec des versions un peu originales, que je n'ai pas l'habitude, parce que les versions habituelles, je les connais par cœur. C'est pour ça que je souligne rien dans ma Bible. Vous, vous faites comme vous voulez. Mais moi, je souligne rien parce que je sais que si je surligne, je vais me dire que ce que j'ai surligné. Et dire, ah ouais, j'avais vu ça, 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 c'est bon, hop, réglé. Non, justement pas. J'ai envie de trouver toujours des choses nouvelles. J'ai envie de me laisser émerveiller par Dieu chaque jour, épater par Dieu chaque jour. Ce n'est pas mon nombre d'années de christianisme qui me donne comme un certificat, comme quoi maintenant je connais tout de Dieu. Non, et si je connais qu'une infime partie de Dieu, j'ai envie de le connaître encore davantage. Je suis encore un cherchant Dieu, même si il m'a trouvé. Et c'est cet élan-là à placer dans notre cœur. Parce que cet élan-là, il entretient notre relation avec Dieu, notre intimité avec Dieu, notre envie d'être à ses côtés. Amen. Dieu veut cette relation avec nous, dans laquelle, ben, voilà, je découvre toujours un peu plus qui est Dieu, jour après jour. Et je me réjouis quand je serai au ciel, quand je le découvrirai pleinement, quoi. Et là, ce temps de pause encore plus incompréhensible. Jairus, ça ne sert plus à rien. N'embête plus le maître. Ta fillette est partie, elle est morte. Et quand on en arrive là dans nos vies, attends, j'ai été un intercesseur. Tu t'es levé pour moi. On a fait des pas ensemble. Et là, tu t'es occupé d'un autre et le résultat, je perds tout. Où est ta promesse? Et Jésus ne va pas spiritualiser. Il va juste dire, mais toi, tu vois avec ta vue humaine. Tu vois avec tes projets humains. Et même dans ce que tu vas me demander, toi, tu crois que je peux la guérir. Mais je peux plus que cela. Je vais aller au-delà de ta pensée. Et quand vous intercédez avec quelqu'un, attendez-vous à ce que Dieu aille au-delà de vos pensées. Toujours. J'ai toujours vu la fidélité dans ce sens-là. Dieu va au-delà de ce que je pourrais lui demander. Alors des fois, ça n'a plus rien à voir avec ce que j'ai demandé, tellement c'est au-delà. Mais c'est tellement bon. Parce que je réalise que finalement, ce n'est pas ma bénédiction que Dieu donne, mais c'est sa bénédiction qu'il fait reposer sur moi. Et ça change tout. Ce n'est pas ma vie, mais c'est sa vie. En moi. Ce n'est pas mes désirs, mais ce sont ses projets pour moi. Vous avez chanté, hein, ton chemin, mon destin. C'est le chemin de Dieu qui va déterminer mon destin, qui me donne ma destinée. Donc ce n'est plus mes ambitions, c'est les projets de Dieu pour moi. Et ça soulage de savoir ça. Mais là, Jairus, juste avoir cette parole. Fais confiance, on va y aller. Et vous imaginez le tumulte là-bas, la Bible décrit assez bien. Jésus met tout le monde dehors, sauf la famille proche. Jésus ressuscite la fille, et qu'est-ce qui se passe après? C'est aussi l'effervescence partout. Hein. Il est dit que les gens sont complètement... On peut imaginer des scènes, voire d'hystérie. C'est complètement choquant, mais en même temps, c'est incroyable. Je ne sais pas si on réalise vraiment. Ouais, c'est normal, j'ai lu ça dans la Bible. Et qu'est-ce qui se passe après? Donnez-lui à manger et à boire. Ce n'est pas spirituel, ça. Attends, tout ça pour qu'elle puisse manger et boire. Non, mais tu n'aurais pas pu la ressusciter de façon à ce que tous ses besoins soient satisfaits et qu'elle n'ait pas faim. Au moment où tu la ressuscites, il faut encore lui administrer à manger. Jésus, tu peux au moins aller jusqu'au bout, quoi. Il faut encore lui préparer un repas, là. Il y aura toujours une part. Et c'est pas forcément une part spirituelle, mais une part concrète qui t'appartient. Quand bien même tu vis le plus grand des miracles, une résurrection, tu auras quand même faim. Et cette faim, c'est pas une faim spirituelle, là. C'est aussi une fin physique. Quand bien même tu es un super chrétien, tu auras toujours des besoins physiques. Tu ne peux pas tout spiritualiser. Tu auras toujours des envies humaines qui sont normales, qui sont légitimes. C'est normal de manger. Je n'ai pas parlé de se goinfrer. D'accord? C'est normal. Et ce n'est pas parce que tu deviens chrétien que tu deviens super spirituel et que tu n'as plus de besoins matériels. Tu as encore des besoins matériels et tu as encore des besoins psychologiques et tu as encore des besoins affectifs. Et ces besoins-là, ne dis pas, bah écoute, chérie, j'ai plus besoin de toi, Dieu me suffit. Je l'ai déjà entendu. Hein. C'est hyper triste. Pas de mon épouse, je vous rassure. Mais une personne qui ça n'allait pas dans son couple, elle dit à son mari, j'ai pas besoin de toi, j'ai Dieu. Non. C'est pas parce que tu es devenu chrétien que tu n'as plus besoin des autres et que tu n'as pas de besoins physiques, émotionnels, psychologiques, intellectuels. Tous ces besoins-là, tu les as encore et Dieu ne les remplacera pas parce qu'il t'a donné sur la terre de quoi les combler. Là où il y a le plus de guérison, c'est là où il n'y a pas de médecin à 100 km à la ronde. Parce que Dieu a donné sur la terre de quoi par combler certains besoins. Et alors, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. Je suis pour les guérisons divines, j'en ai déjà vu, j'ai déjà prêché dessus. Mais vous savez, là où il y a le plus de guérison aussi, c'est que les miracles sont faits pour convaincre les gens. C'est dans des campagnes d'évangélisation. Parce que les miracles sont là pour attester qui est Jésus. À la limite, le chrétien n'en a pas besoin. Il a juste besoin de cette relation avec Dieu. Quand Dieu te dit, ma fille, mon fils, je suis ton père, je veux prendre soin de toi, je suis à côté de toi, je serai toujours là. Et ce qui compte, ce n'est pas forcément ce qui se passe sur cette terre, ce n'est pas forcément ta bénédiction, mais c'est l'intersection, l'intercesseur, l'intercesseuse que tu es devant moi. Parce qu'à travers toi, des multitudes peuvent être touchées. Parce que j'ai choisi de toucher à travers toi. Nous sommes le corps de Christ, nous sommes ses mains, nous sommes son cœur, nous sommes ses yeux, nous sommes ses pieds pour aller, pour toucher, pour considérer le besoin des gens qui nous entourent et pour pouvoir porter cela devant Dieu. Ça commence là, une vie centrée sur Dieu et plus sur nous-mêmes. Amen. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta paix. Et merci parce que tu opères encore aujourd'hui des guérisons. Merci parce que tu n'as pas changé. Mais tu n'es pas seulement un Dieu qui guérit. Tu n'es pas seulement un Père Noël qui apporte des cadeaux de bénédiction une fois l'an. Tu es un Père jour après jour, chaque jour. Chaque matin, tes bontés se renouvellent. Chaque jour, je suis renouvelé par ta parole qui m'apporte quelque chose de neuf, mais quelque chose qui m'attire dans cette relation de confiance avec toi. Oui, on ne comprend pas toujours tout dans nos vies. On ne comprend pas pourquoi certaines choses s'arrêtent alors qu'on pensait être en chemin. Mais toi, tu vois au-delà de ce que nous pouvons voir. Si ta lumière éclaire nous, à nos pieds, les prochains pas, toi, tu vois. Les milliers de kilomètres plus loin. Tu vois au-delà. Et tu exauces au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer ou même croire. Seigneur, merci. Parce que tu acceptes chacun et tu appelles encore chacun à vivre dans cette famille de Dieu. Merci, Père. Amen. Que Dieu vous bénisse pleinement. Amen.